Gotta sweet like an angel. Gotta be not good. Gotta sweet like an angel. Bienvenue sur RCF Maglone et Rome. Nous sommes dans l'émission Éco-Protestant et aujourd'hui nous allons avoir plus qu'un éco-protestant, un écho d'une protestante sur la philosophie arabe appliquée à une question politique. Alors vous me direz, en cette période de confinement, il est difficile de penser le politique, on est plutôt reclus chez soi, mais justement, c'est peut-être une bonne manière de pouvoir aborder le sujet qui va nous occuper aujourd'hui, parce que nous allons découvrir qu'une analogie est possible entre le corps, ce corps avec lequel vous êtes enfermé depuis quelques semaines, et la politique. Et je reçois pour cela Karine Michel, bonjour.
Bonjour James Woody.
Alors, vous êtes doctorante et c'est dans le cadre de votre recherche doctorale que vous êtes intéressée à un manuscrit en particulier, à un auteur en particulier.
Oui, oui, oui. Donc moi je travaille sur un texte daté vraisemblablement du Xe siècle, un texte qui a été écrit en arabe par l'auteur présumé est Al-Ramiri, un philosophe perse, mais qui a écrit en langue arabe puisque la langue arabe était la langue de la science à l'époque. Petite digression, ce qu'on appelle philosophie arabe n'est en fait pas de la philosophie arabe, à part un. Le premier, Al-Kindi, les philosophes dits arabes sont tous perses. C'est simplement une philosophie de langue arabe.
C'est une précision importante.
Toujours importante, ça permet de ne pas faire d'amalgame. Donc je travaille sur ce texte que j'ai eu la chance de découvrir grâce à mon directeur de thèse, qui l'avait parmi une vingtaine d'autres textes à disposition. Donc un texte qui n'a jamais été traduit dans une langue européenne. Et donc j'y ai vu l'intérêt de traduire un texte qui a une certaine importance dans l'histoire de la pensée pour pouvoir le mettre à disposition de toutes les personnes qui ne maîtrisent pas la langue arabe.
Alors quel est le thème, le titre de ce traité ?
Alors le titre n'est pas définitif puisque c'est
au choix du traducteur. En traduction.
Bon, vraisemblablement quelque chose comme traité sur le bonheur et les moyens de l'acquérir ou le un terme grammatical.
D'y parvenir, de l'obtenir.
Voilà, de l'obtenir pour soi-même, mais aussi peut-être, à vérifier, de le transmettre aux autres, d'apprendre aussi aux autres comment eux-mêmes pourraient acquérir le bonheur.
Bon, donc ça va être un peu l'objet de cette émission, voir comment il est possible d'atteindre ce bonheur, peut-être individuellement et collectivement. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la méthode de l'auteur ? Comment s'y prend-il pour aborder un sujet finalement aussi vaste ?
Alors l'intérêt principal de ce texte, c'est que ça n'est pas un traité réellement au sens propre du terme, mais c'est plutôt une collection. C'est une grosse collection d'aphorismes, de maximes. L'auteur a été en fait pioché dans les sagesses antiques, grecques, perses, indiennes et arabes.
Rien de biblique.
Alors, rien de biblique, si, dans mon souvenir, il y a une référence à un passage de la Torah. Mais bon, c'est pas ce qu'il y a de plus prégnant. Ce qui est le plus prégnant, c'est la philosophie grecque. Et en fait, l'auteur a récupéré ce qui devait être à peu près tout ce qu'ils avaient à disposition comme maxime de sagesse à l'époque, pour en faire une espèce de grosse encyclopédie. Et sa méthode, c'est vraiment de les... Bon, justement, sa méthode est assez étonnante, c'est qu'il n'y a pas de méthode.
Ah.
Dans la mesure où
expliquez-nous ça, alors.
Alors, c'est très très étonnant, c'est assez compliqué à travailler au départ, c'est qu'il n'y a pas d'ordre. On a du mal à comprendre la structure du texte. Il y a un fil rouge, bien évidemment, qui est la question du bonheur et de la manière dont la cité doit être gouvernée pour qu'on puisse atteindre le bonheur. Mais finalement, quand on rentre dans le texte, c'est pas organisé par chapitre, c'est pas regroupé par thématique. L'auteur va parler d'un point précis, va citer plusieurs maximes d'auteurs divers, parfois même sans donner leur nom, ce qui rend les choses encore plus compliquées. Passer à une autre thématique et 50 pages plus loin reviendra sur la première thématique. Enfin, c'est une espèce de chose très brouillonne, très
évidemment pour un esprit occidental, cela est aux antipodes de ce que nous sommes habitués à faire, notamment à l'université. Est-ce que il y aurait là comme deux archétypes de la pensée occidentale et de la pensée orientale? Est-ce que c'est peut-être ce qui peut expliquer que des fois on ait du mal à se comprendre d'une culture à l'autre? Est-ce que c'est significatif?
Alors ça peut être une hypothèse, après à mon sens pas nécessairement parce que d'autres auteurs contemporains de celui du texte que je travaille ont eux aussi travaillé sur les mêmes questions, parce que ces questions du bonheur et de la gestion politique de la cité étaient vraiment prégnantes à l'époque. Et ces auteurs, je pense notamment à Miss Kawai, a écrit un traité où il reprend aussi beaucoup de maximes, souvent les mêmes que son collègue, mais lui s'est organisé de manière beaucoup plus systématique et vraiment dans une forme de logique qui se rapproche beaucoup plus des traités d'Aristote. Donc je ne pense pas que ce soit représentatif d'une manière de penser.
C'est pas général.
Non, et en même temps, effectivement, ça rejoint quand même cette idée qu'on a quand on lit un texte tel que le Coran, où effectivement la manière dont le Coran est rédigé sort de ces cadres de la pensée occidentale qui sont très, c'est très cartésien.
Très analytique.
Le Coran est un texte qui, quand on le lit nous occidentaux, on a l'impression que ça passe du coq à l'âne, que c'est très fouillis. Donc effectivement, on peut trouver quand même dans la culture arabo-musulmane ce type de texte, et notamment dans le Coran, qui est quand même le texte représentatif de cette culture.
Est-ce que nous avons une idée du destinataire? À qui ce texte était-il adressé? Pour qui il a été écrit? Est-ce que c'était quelque chose pour soi ou est-ce que c'est vraiment pour des lecteurs?
Alors, on n'en a pas d'idée précise parce que malheureusement, la seule copie du manuscrit qui reste aujourd'hui, donc une copie qui daterait du XIe siècle, qui se trouve à la Chester Beatty Library à Dublin, n'est pas entière. Il manque notamment tout le début du texte. Donc on n'a pas d'éventuelles dédicaces, ou on n'a même pas le nom de l'auteur, effectivement. On n'a pas toutes ces informations qui permettraient de situer le texte. Après, la manière dont il est conçu, les sujets qu'il aborde, on peut faire plusieurs hypothèses, mais effectivement, moi je penche pour un texte à destination de lecteur. J'ai pensé à un moment dans mes recherches des notes de cours prises par un étudiant, parce que parfois celui qu'on pense être l'auteur est cité à la troisième personne du singulier, donc c'est peut-être un étudiant.
Du coup, ça serait un professeur notes. Un peu brouillon alors.
Oh bah comme...
Un poète.
Un poète, un philosophe qui fait cours aussi au fil de sa pensée.
Une pensée assez impressionniste.
Voilà, tout à fait. Mais bon, je n'ai pas je pense qu'on n'aura pas de certitude sur un texte tel que celui-là, tant qu'on n'aura pas en tout cas retrouvé une copie du manuscrit qui aurait son début et sa fin, puisque le manuscrit tel qu'il est aujourd'hui n'a pas de début, n'a pas de fin.
Et n'a
pas de milieu d'ailleurs aussi.
C'est intéressant. Et est-ce que éventuellement ce texte a été réutilisé par d'autres auteurs par la suite?
Alors très peu. C'est aussi quelque chose qui est assez étonnant, c'est qu'il a été utilisé un peu par des contemporains ou des penseurs qui sont passés juste après. Mais par contre, il a très vite disparu des écoles de pensée. Les grands noms de la philosophie arabe qu'on connaît nous en Occident, Averroès et Avicenne, n'en parlent pas du tout. Avicenne parle très vaguement de celui qui serait l'auteur de ce texte, en des termes pas très élogieux d'ailleurs. Mais le texte lui-même, on le retrouve pas. C'est un texte dont on a perdu trace. Alors, il n'avait pas disparu, puisque nous, on en a encore une copie. Est-ce qu'il a été mal jugé, mal lu, mal compris? Ça, c'est. Il faudrait chercher un peu plus questionner vraiment sa réception, ce qui n'a pas été, moi, mon travail actuel. Mon travail étant d'abord une traduction, ce qui prend déjà pas mal de temps. Mais effectivement, c'est pas un auteur qui est resté, qui a marqué l'histoire de la pensée, malheureusement. Et justement, le but de ce travail, c'est de lui redonner peut-être la place qu'il mérite. Parce que c'est vraiment un texte passionnant.
Alors, nous aurons l'occasion de plonger dans ce texte, mais dans un premier temps, une première pause musicale. À tout de suite.
Rabat في السنتر فيل كانت بنا ولا
Nous nous retrouvons pour cette deuxième partie d'Éco-Protestants sur RCF Maglonero avec Karine Michel qui nous présente un travail qu'elle accomplit dans le cadre de sa thèse doctorat sur un traité concernant le bonheur et les moyens de l'acquérir. Alors, est-ce qu'on en sait un peu plus sur le bonheur une fois qu'on a lu ce traité ? Qu'est-ce que le bonheur pour votre auteur ?
On n'en sait pas vraiment plus, au bout du compte. Ça ouvre des pistes de réflexion, mais on n'en sait pas plus en soi. Mais ça amène à réfléchir. Pour lui, le bonheur est vraiment quelque chose d'individuel avant d'être quelque chose de politique,
de collectif.
De collectif. Et c'est aussi quelque chose qui n'est pas forcément lié à la religion. Ce qui est assez étonnant, puisque on a tendance à penser que si c'est un penseur arabe, c'est un penseur musulman, et que forcément tout passera par le Coran, par la pratique religieuse.
Il y a une dimension religieuse quand même dans son propos ?
Il y a une dimension religieuse, il y a toujours une dimension religieuse chez les penseurs de langue arabe à l'époque médiévale, mais il y a quand même une forme de mondanisation de la question du bonheur et de la question politique chez ces philosophes, qui est assez étonnante. Si ça n'était pas le cas, il n'aurait de toute façon même pas pu citer les philosophes grecs, puisqu'il s'appuie dans ses argumentations principalement sur deux païens, comme il disait à l'époque.
On a d'ailleurs le sentiment qu'il est assez platonicien, puisqu'il semble que pour lui, finalement, le bonheur, ce soit la recherche de la perfection.
Oui.
Ce que vous appelez l'accomplissement de sa propre nature.
Oui, c'est effectivement un auteur plutôt platonicien, comme la plupart des philosophes arabo-musulmans à l'époque. Ça a été ouvert par Al-Farabi, qui lui était un des premiers penseurs et qui a influencé cet auteur et ses contemporains.
Penseur du 9e siècle.
Oui. Avec ce... Alors, Al-Farabi, son but a été de faire une espèce de synthèse entre Platon et Aristote. Et donc la philosophie arabe s'est développée sur cette tentative d'harmonisation entre les deux maîtres grecs, avec effectivement peut-être une présence de Platon un peu plus forte, dans la mesure où ça a été mêlé avec des ouvrages de Plotin, des choses qui...
Donc la deuxième génération de platoniciens.
Voilà, donc il y a eu toute cette école qui... alors que Aristote est venu aussi, mais de manière plus condensée sur l'éthique à Nicomaque.
Alors, peut-être que pour être plus concret, la nature de la personne se distingue en plusieurs parties, qu'on pourrait peut-être voir une sorte de répartition tripartite d'ailleurs, le corps, l'âme, et puis la dimension un peu politique, l'association civile.
Oui.
Est-ce qu'on sait pourquoi se limiter à ces points-là ? Qu'est-ce qui est décisif pour dire que ce sont ces trois parties qui sont vraiment constitutives de la personne ?
Alors, les penseurs arabes, c'est le reprennent simplement de chez Platon.
D'accord.
C'est la répartition tripartite qu'on trouve dans la République de Platon, que les penseurs arabes n'interrogent pas. D'une certaine manière, ils partent de cette prémisse-là qui est posée d'office.
Donc, grosso modo, ça signifierait qu'on entretient bien son corps, on éduque son âme, on pense un peu aux affaires de la cité, et ça y est, on a réussi sa vie.
Alors, ça dépend comment on le fait.
Bon.
Mais effectivement, on part de cette idée que l'homme a un corps. Ça, de toute façon, c'est quelque chose qu'il n'y a pas à interroger, puisque le corps est là, il est présent. Il y a effectivement toute cette notion d'hygiène de vie, d'alimentation. C'est d'ailleurs une thématique assez prégnante dans la culture arabe, l'alimentation. Et ça va être le premier, s'il faut faire une hiérarchie, le premier degré de ce qui est à accomplir par l'homme dans ce chemin de perfection, c'est de prendre soin de son corps. À partir du moment où il a pu... Parce que finalement, prendre soin de son corps, c'est devenir maître d'une partie de ses désirs. C'est-à-dire apprendre à contrôler tous les désirs qui viennent du ventre, comme disent les penseurs arabes, les désirs au niveau de l'alimentation, de la sexualité, apprendre à avoir une espèce de maîtrise de soi au niveau physique qui peut ensuite permettre que l'âme qui habite ce corps puisse elle aussi être éduquée.
Ce qui, chez le théologien danois Kierkegaard, serait peut-être le premier stade du chemin de la vie, c'est-à-dire le stade esthétique, le principe de plaisir. Voilà, réussir à passer cette étape-là pour accéder au deuxième niveau, donc l'âme.
L'âme. Et là, effectivement, les philosophes de langue arabe ont développé beaucoup de théories sur la question de la connaissance, l'acquisition de la connaissance et la manière de discipliner l'âme, avec cette notion de, qui est reprise aussi des philosophes grecs, de la question de la contemplation. Et que c'est la question de la contemplation et de ce retrait que l'homme va avoir de tout ce qui a trait au désir ou aux souffrances, aux questionnements, aux inquiétudes qu'on peut connaître dans la vie de tous les jours, d'avoir une espèce de mainmise dessus pour pouvoir les mettre à l'écart. Et
ne pas leur être soumis finalement.
Voilà,
c'est pas toujours garder soumis, le contrôle en fait. Hein.
Garder le contrôle, ne pas être soumis aux contingences de, du monde pour s'élever vers une forme de contemplation.
Ce qui est assez frappant, c'est que finalement, vous nous faites comprendre que cette maîtrise du corps, c'est une façon de vérifier qu'on est capable de se gouverner avant d'imaginer pouvoir gouverner les autres.
Oui.
Alors, une sorte d'analogie entre ce que l'on peut faire sur soi et ce que l'on peut faire avec les autres.
Oui. Cette analogie, elle est présente chez tous les penseurs arabes. Et dans ce texte, c'est vraiment une des clés de lecture. L'idée, c'est qu'on ne peut pas gouverner autrui si on n'est pas capable d'être maître de soi-même. On ne peut pas agir sur autrui si ce n'est pas quelque chose qu'on est capable de faire d'abord sur soi. Et en fait, l'analogie, elle va être faite avec cette tripartition corps, âme et société civile, mais aussi entre individus, gouvernement domestique, donc de sa maison, et gouvernement de la cité. Ça marche toujours par trois.
C'est
toujours
et vous allez plus loin, parce que vous dites finalement, il y a aussi une analogie avec le cœur, le cerveau et le foie.
Oui.
Alors là, c'est utile, parce que chacun étant ramené à soi peut vérifier que ces trois instances essentielles pour la vie peuvent avoir une implication sur ce que vous nous expliquez.
Oui, oui. Alors après, ça prend différentes formes selon les penseurs arabo-musulmans, ils ne sont pas tous tout à fait d'accord sur quel organe aurait la préséance, mais effectivement, il y a une espèce de schéma avec donc trois organes principaux dans lesquels vont résider les trois formes d'âme qu'on trouve chez Platon, puisqu'on a donc l'âme concupiscente, celle qui va être vraiment sur les désirs physiques, qui vient du ventre, de l'estomac,
Le foie.
Du foie.
Le cœur, ça serait les sensations émotionnelles.
Les sensations émotionnelles, une seconde partie de l'âme, et la troisième partie de l'âme étant celle qui est raisonnable ou rationnelle, qui est liée au cerveau. Chacune d'elles va d'ailleurs être liée aussi à une vertu. Il y a aussi tout un travail sur la question des vertus chez les penseurs arabo-musulmans, ça vient plutôt d'Aristote.
Alors, nous verrons cela dans notre troisième partie. Pour l'instant, offrons-nous une seconde pause musicale. À tout de suite. Troisième partie d'Écho Protestant sur RCF Maglonero. Nous sommes avec Karine Michel pour découvrir un traité sur le bonheur. Un traité sur le bonheur qui s'intéresse aussi à la façon d'organiser la société. On a vu qu'il y avait une analogie entre l'individu avec ses trois parties, le cerveau, le cœur, le foie, avec le corps, l'âme et puis la cité politique. Il y a également trois corps sociaux qui sont peut-être un peu étranges pour des oreilles au XXIe siècle. Trois corps sociaux qui seraient les gouvernants, on sait très bien, les gardiens, et là on se demande si on n'est pas dans un état totalitariste, et puis les producteurs, comme s'il fallait être dans une société productiviste. Qu'est-ce que ça signifie pour notre auteur d'avoir ces trois catégories, gouvernants, gardiens, producteurs, pour organiser la société?
Alors, notre auteur a récupéré ces trois catégories chez Platon, puisque c'est ce qu'on trouve également dans la République de Platon. C'est simplement ce qui semble être les catégories nécessaires pour que la cité puisse perdurer et puisse vivre selon un ordre qui permette une harmonie.
Il n'y a pas beaucoup de poésie là, quand même.
Alors non, il n'y a pas de poésie, il n'y a pas de... Alors si, on peut imaginer la poésie au sein de la caste des gouvernants, qui sont en général un chef, puisque pour ces penseurs comme pour les penseurs grecs, ce n'est pas la démocratie qui est le fonctionnement idéal, c'est plutôt d'avoir un unique chef, mais qui serait entouré d'un groupe de conseillers qui sont globalement des philosophes, mais sont aussi fréquemment des gens de lettres.
Et qui décide de qui sont les gouvernants? Est-ce que c'est un choix populaire? Est-ce que c'est le choix d'une aristocratie? Est-ce que ça se transmet de génération en génération par un lien biologique?
Alors, il y a, pour l'instant, dans les parties du texte que j'ai terminé de traduire, il n'y a pas forcément d'indication sur le choix. Mais l'idée, c'est vraiment que la personne qui soit au pouvoir soit justement celle, en tout cas une personne qui aura été en mesure d'instaurer sur elle-même ce gouvernement dont on a parlé, quelqu'un qui aura acquis les connaissances et les compétences nécessaires. Il y a toute une formation, donc ce texte-là n'en parle pas, mais la pensée arabe s'intéresse énormément, donc ce qu'on appelle la pensée de l'adab, donc la pensée des belles lettres, c'est une pensée qui va jointe à la pensée des miroirs des princes, cerner tout ce qui est nécessaire à un gouvernant de connaître et d'acquérir comme connaissance et comme compétence.
Avec un apprentissage qui semble faire référence à l'alimentation. Vous avez quelques passages où vous faites référence au fait que manger, c'est une manière d'apprendre. Avec quelques règles, on ne peut pas aller trop vite parce qu'on a besoin d'assimiler comme on a besoin de digérer. Il ne faut pas perdre de vue les finalités parce que sinon on finit par vivre pour manger au lieu de manger pour vivre. Et puis il y a ce précepte d'Ibn Rushd, le pain chaud est peu digeste et le pain au levain est supérieur au pain sans levain. Ça signifie quoi cette histoire?
Alors, des phrases comme ça, il y en a énormément dans ce texte, des choses un peu étonnantes. Je pense que c'est surtout l'idée très générale de la question du juste milieu que ces penseurs tirent d'Aristote, ou que ce soit l'alimentation, que ce soit la sexualité, que ce soit les relations comme l'amitié, par exemple, les relations humaines, l'amitié est quelque chose de très très important dans cette pensée. Ou que ce soit l'acquisition de connaissances, le travail intellectuel, tout doit être fait avec un certain juste milieu. Et effectivement, l'alimentation en est un bon exemple. Celui qui va gouverner la cité ne doit pas être un glouton ou un épicurien ou un ivrogne. Et effectivement, d'ailleurs, la question de l'alcool est abordée dans ce texte. Mmh. Et dans ce texte, il n'y a pas de référence faite à une interdiction de l'alcool en terre musulmane. Ce qui est assez...
Mais de la modération en toute chose, y compris pour la cocaïne.
Alors, il ne parle pas de cocaïne, mais j'imagine que si ça avait été le cas, ça aurait été aussi avec modération.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous faites finalement un parallèle entre le régime alimentaire et le régime politique.
Oui.
Est-ce que ça signifie qu'on aurait un régime politique qui serait lui aussi modéré dans la recherche d'équilibre? Parce qu'on peut se dire, s'il y a un seul gouvernant, éventuellement avec un conseil, c'est quelque chose d'assez autocratique. Mais là, ça serait quelque chose de beaucoup plus équilibré.
Alors, il y a effectivement une recherche d'équilibre dans la mesure où le gouvernant doit vraiment être quelqu'un qui sera au service de la cité. Avec vraiment cette idée qu'il va ordonner de la manière la plus harmonieuse possible les différents corps de la société pour que chacun soit à sa place, respecte sa place, n'essaye pas d'en bouger et que chacun agisse en fonction de ce qu'on attend de lui.
Une sorte de déterminisme social, du coup.
Il y a une forme de déterminisme social qui, effectivement, peut être un peu choquant.
On n'est pas dans une société libérale, même.
Pas du tout. La cité idéale telle qu'elle est imaginée par les philosophes arabes, puisque par contre c'est vraiment une cité idéale. Cette idée, elle est héritée d'Al-Farabi. Il n'y a pas de volonté exprimée que cette cité soit vraiment mise en place. Alors, ça n'est pas non plus cette question de la cité de Dieu comme chez Saint-Augustin, mais il y a vraiment cette idée, c'est un idéal qu'on recherche, mais qui n'a pas d'existence
Qui n'a jamais
réelle,
été concrétisé
qui n'a
dans une
jamais été
histoire.
concrétisée.
D'accord.
Cet auteur-là, par exemple, dans son texte, ne fait absolument pas référence à l'époque du prophète de l'islam comme étant l'époque où cette cité idéale ou cette communauté idéale aurait existé.
D'accord.
Ce qui contre justement les discours un peu radicaux
Il
qu'on
n'y a
peut
pas eu
trouver
d'un âge
aujourd'hui.
d'or. Alors, on a les gouvernants, les gardiens. Ça fait un peu gardien de la révolution, gardien de la loi.
La police, l'armée.
Ouais. Quel est leur rôle? Ils s'apparenteraient à quel type de fonction aujourd'hui?
Alors aujourd'hui,
En France, disons, est-ce qu'on peut faire une analogie?
mais je pense que c'est à la fois l'armée et la police,
Ah, c'est
c'est-à-dire
ça,
qu'ils
c'est la
ont,
sécurité.
oui, c'est la question de la sécurité,
Maintien de
mais autant
l'ordre.
extérieure qu'intérieure. C'est-à-dire qu'il y a la sécurité extérieure de se protéger des éventuels envahisseurs autour, mais aussi le maintien de l'ordre interne. Alors, c'est pas forcément que la question des violences, c'est aussi l'idée que les gardiens peuvent vérifier que chacun entre bien dans le rôle qui lui a été imparti, comme les garants de l'ordre, mais de l'ordre social et du respect des règles de vie dans cette communauté.
Alors, après, il y a les producteurs. Bon, là, on voit un peu mieux de quoi il peut s'agir. Quelle est la place pour le bonheur individuel dans ce dispositif qui m'a l'air complètement verrouillé?
Alors, ça semble verrouillé, effectivement, mais ma conviction, c'est qu'il n'y a pas d'annihilation du bonheur individuel dans ce fonctionnement de la cité idéale, dans la mesure où l'individu sera apte à vivre dans cet ordre, à la place qui lui est impartie, quand il aura lui-même pu effectuer ce travail de maîtrise de ses désirs, de ses passions, et qu'il aura atteint ce gouvernement de soi qui l'amène à une forme de bonheur. Alors effectivement qu'après, la forme de bonheur ne sera pas la même selon
Le
le groupe auquel on
statut,
appartient.
voilà.
La forme de bonheur qui est vraiment cette contemplation et cette acquisition de la connaissance
Elle est plus
tient
difficile pour
plutôt,
les
elle est
producteurs.
plus difficile pour les producteurs ou même les gardiens. Mais c'est pas cette cité, c'est pas un tout qui n'a pas, mais c'est vraiment un tout qui est fait d'individualité. Chaque individualité a son importance.
Très bien, bah écoutez, merci beaucoup Karine Michel pour toutes ces explications et cette découverte d'une pensée qui est un peu exotique, mais qui du coup nous sera beaucoup plus familière maintenant. Merci et puis bonne soutenance dans la perspective de votre fin de doctorat.
Eh bien, merci à vous pour l'invitation.
Au revoir.
Au revoir.